Bonsoir, cher Antoine.
Rebonsoir, cher Arnaud.
Ah oui, enfin, c'est à vous, quoi.
On vient de s'entendre. Merci, en tout cas.
Je pensais à autre chose, je crois.
Procès stalinien contre les auteurs du film salafiste, titre Marianne, qui s'insurge contre la campagne délirante orchestrée contre cet indispensable document réalisé par François Margolin et les mines Ould Salem au péril de leur vie. Inqualifiable conjuration honteuse, censure, tonnait Claude Lanzmann mardi dernier dans Le Monde, alors que Fleur Pellerin tergiversait encore sur le visa à accorder au documentaire polémique. Il faut dire qu'à de rares exceptions près, la presse n'a pas été tendre avec le film et certains, tels Christophe Kantchev et Jean-Claude Renard dans Politis, ont anticipé de peu une bien triste actualité dans leurs critiques. Pire qu'une absence de point de vue, écrivait-il en effet jeudi dernier, salafiste témoigne d'une totale irresponsabilité du regard. Là où Claude Lanzmann décèle un véritable chef-d'œuvre éclairant comme jamais la vie quotidienne sous la charia, on peut aussi voir, pour reprendre le terme de Jacques Rivette, une abjection. Le mot était lâché et rappelé combien le cinéaste, dont on apprenait le lendemain la disparition, s'était d'abord fait connaître comme un critique aussi crucial que redouté, auprès duquel nous sommes tous d'aimables enfants de cœur. À Libération en 1991, rapporte le quotidien au début de ses 7 pages d'hommage, Claude Chabrol revenait sur le Rivette, à la rage critique aussi violente qu'éprise d'intégrité de la salle de rédaction des Cahiers du cinéma. Il ressemblait au chat d'Alice au Pays des Merveilles, racontait Chabrol. Il était tout petit, on le voyait à peine. Il semblait ne pas manger. Quand il souriait, il disparaissait entièrement derrière ses dents superbes. Il n'en était pas moins aussi féroce que les autres. Cette férocité fera date dans un texte devenu une pierre de touche de l'approche critique en France, De l'abjection, publié en juin 1961 dans le numéro 120 des Cahiers du cinéma, consacré au film Capot de Gillo Pontecorvo, première représentation fictionnelle des camps au cinéma et dont un extrait est passé à la postérité pour sa cinglante façon d'apparier la mise en scène et la morale. Voyez cependant dans Capot le plan où Riva, Emmanuel Riva, qui joue une déportée, se suicide en se jetant sur les barbelés électrifiés. L'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée, en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadrage final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris, écrivait Rivette. Poursuivant la réflexion sur la mise en scène entamée par Luc Moulet, la morale est affaire de travelling, et Jean-Luc Godard, les travelling sont affaire de morale, il oppose à l'abjection, ainsi disqualifiée, la justesse du point de vue de l'auteur, qui est aussi un rapport au monde. Jacques Rivette laisse ainsi deux grands textes critiques et plus largement un héritage qui reste déterminant dans l'appréhension de la modernité cinématographique, note Isabelle Régnier dans Le Monde, qui rappelle également que des jeunes turcs de la bande des quatre qu'ils formaient quand ils avaient 20 ans avec Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Chabrol, il était de loin le plus secret, le plus cinéphile aussi, rajoute Jacques Maurice dans Télérama. Cet homme au caractère souvent sombre, taciturne, s'organisant même dans les années les plus heureuses de sa vie pour qu'on ait le plus grand mal à le joindre, cet homme qui se cachait sous le soleil de Saturne, frêle mais d'une force morale et d'une intelligence, d'une culture sans faille, comme le décrit Armel Héliot dans Le Figaro, à la fois un intellectuel qui semblait austère et un artiste habité par une jubilation intérieure, selon Émile Breton, dans L'Humanité, c'était la cinéphilie jusqu'à son dernier souffle, pour Olivier De Bruyne dans Les Échos. Ces dernières années encore, il n'était pas rare d'apercevoir la silhouette menue de Jacques Rivette, attablé en solitaire dans un restaurant self-service du haut des Champs-Élysées, dont le seul mérite était d'être situé à quelques encablures de nombreuses salles de cinéma, peu porté sur la gastronomie, contrairement à son ami Claude Chabrol, mais cinéphile du genre boulimique, Rivette, tant que son état de santé le lui a permis, n'aimait rien tant que découvrir des films et des nouveaux auteurs, comme une fidélité indéfectible à ses années de formation, où entouré d'autres jeunes gens pressés, il plébiscita l'art de la mise en scène sur le grand écran, la fameuse politique des auteurs, et révolutionna les us et coutumes du cinéma français, d'abord de façon théorique et critique, en déboulonnant les vieilles idoles, autant Lara Carné et consorts, ensuite en passant à l'acte et en réalisant des films qui lui ressemblaient, des films inclassables, novateurs, étranges et profondément libres, dont un qui fut à l'origine d'une polémique qui aujourd'hui nous paraîtra sans doute d'un autre âge, rappelle Emmanuel Giuliani dans La Croix. On serait d'ailleurs curieux de savoir ce qu'en écrivait alors le quotidien catholique. En 1966, dans La France gaulienne, le deuxième long métrage de Jacques Rivette, adapté de La religieuse de Diderot, avec Anna Karina dans le rôle principal, tombe sous le coup de la censure. André Malraux est alors ministre de la Culture. Malheur aux politiques qui ne connaissent pas le prix des beaux-arts, écrit Françoise Giroud dans L'Express, citant Voltaire, tandis que de nombreux intellectuels et artistes s'insurgent au nom de la liberté de création. La mesure, rappelle Pascal Mérigeau dans l'Obs, inspirera à Jean-Luc Godard une lettre à André Malraux, le ministre de la Culture, avec un K d'alors, publié par le Nouvel Observateur, comme s'appelait alors l'Obs. Le tollé aura raison de l'interdiction et le film sort finalement en 1967 et rencontre le succès. Comme quoi, une bonne censure d'État de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Pour s'en convaincre, vous pourrez vous rendre à partir de demain et jusqu'au 9 février aux 16e journées cinématographiques dionysiennes. 94 films projetés au cinéma, l'écran à Saint-Denis et consacrés aux censures, avec notamment un hommage à un autre grand cinéaste disparu lui il y a un an, René Vautier. Objet, comme le rappelle Claire Baumler dans le Figaro, des derniers cas de censure gouvernementale pour des documentaires. C'était la période coloniale et la guerre d'Algérie.